J'en discutais avant le début de l'épisode. Je ne me souviens honnêtement pas c'est quand la dernière fois qu'on a fait un épisode d'un des podcasts réguliers, là, pas aux premières loges, et qu'on était 5 personnes. Sérieusement, je m'en souviens pas. Ça fait longtemps et c'est fun d'être autant. Particulièrement retour en force là, où on se ramasse souvent à être 2 ou 3 à le faire. Là, on est 5 et là, vous me dites, comment ça, 5? Vous êtes juste 4 d'habitude. Eh bien, il y a moi-même, Johan Carrière, qui est là pour cet épisode, avec Thomas Lafond, Étienne Boutillier et Vincent Aurélana Pépin. On a la squad au complet, mais en plus, on a quelqu'un d'autre. On a Olivier Larose avec nous, qui est là pour son premier épisode de Retour en force. Salut Olivier, comment ça va?
Ça va bien. Je viens de travailler fait que, le matin. On est en soirée quand on tourne, fait que, ça va mieux.
une grosse journée pour toi aujourd'hui. Olivier, on peut l'entendre sur le nouveau podcast de patinage artistique au Club École, Twizzle Axel, avec Daphné Chamberlain. Vous avez déjà entendu Olivier. Vous allez pouvoir le lire très bientôt aussi sur le site web du Club École. Olivier, qui se spécialise en patinage artistique, va nous en parler aujourd'hui, d'ailleurs, dans quelques instants. Mais avant de passer au patinage artistique, on va aller voir Étienne. Étienne, tu nous en avais parlé, tu avais ô combien hâte à ce moment-là. Est-ce que c'est safe de dire que vendredi soir, tu as vécu une des plus belles soirées de ta vie?
Écoute, c'est exactement ce que j'allais dire. Ça a été une soirée incroyable. Une des plus belles, je ne sais pas, mais j'ai vraiment eu du fun à Samouraï MMA. La toute nouvelle organisation dans Marsomis qui faisait ses débuts vendredi soir au Théâtre Olympia, c'était plein à craquer. Les gens étaient contents de voir le retour des arts martiaux mixtes et la carte a complètement délivré. En premier lieu, je veux juste remercier le propriétaire, l'instigateur, le président de Samouraï MMA, le père de Thomas, Daniel Lafond, pour avoir tenu, c'est pas le son de père pour vrai, mais pour avoir organisé un événement de la sorte. Il y a du talent au Québec, il y a du talent au Canada et Samouraï nous l'a prouvé. La carte a été complètement folle, je le répète, digne. Je ne veux pas dire digne de l'UFC, mais on s'est vraiment délivré. La carte Deliver, ça a été incroyable. On va commencer avec Pierre Thivierge, qui a commencé la soirée. Pierre qui fait 5 pieds 1 chez 125 livres. On s'entend que c'est pas très grand. Puis bon, c'est sa marque de commerce. Pierre est petit. A eu de la difficulté à éviter les genoux et les coudes de son adversaire en clinch au premier round. Son adversaire qui était Yacine Nasri, qui est venu là, sauver le combat à 10 jours de la soirée. En fait, là, son adversaire n'a pas eu son permis. Yannis Hazard n'a pas eu son permis de la régie. C'est Tommy Morrison qui a Vierge. Il n'a pas eu son permis de la régie. Puis Nasri est venu sauver le combat. Malgré tout, malgré les 5 pieds 1 de Pierre Thivierge, j'ai été suffisamment capable de l'amener au sol et de faire aller sa lutte pour aller remporter le combat à la décision des juges. Par la suite, les gars, on a eu 3 combats qui sont terminés au premier round. Maxime Carcajou-Poulin a fini par soumission après 2 minutes. C'était complètement fou. Fred Duprat a battu son record parce que habituellement il n'avait jamais passé la minute dans un combat. Cette fois-ci, dans ces 3 combats, il y avait le plus long qui s'était rendu, c'était 50 secondes. Là, cette fois-là, il a été lent. Ça lui a pris 2 minutes 50 avant de venir à bout de son adversaire, Patrick Connors, par soumission également. Mais bon, Duprat a dominé d'un bout à l'autre du combat. Puis il montre vraiment qu'il a du talent. Puis en plus, ben, il a pris du temps, il a été calme en position debout. En garde montée à terre. Duprat, ça va être vraiment un nom à retenir. Il a une belle fiche de 3-1 dans l'UFC, dans les arts martiaux mixtes. Puis c'est un bon prospect là, à suivre. Les gars, je vais parler du combat, mais puis là, il n'y a personne qui va voir ce que vous allez, mais juste que vous voyez. Le combat d'Estrania Gavrilovic contre Jonathan Bosuku. Est-ce que vous voyez bien?
Oui, parfait.
Alors, on a Gavrilovic ici qui est très coloré. Ça faisait 4 ans qu'il ne s'était pas battu et les deux ont énormément d'énergie. Ça a été complètement fou. Puis on voit ici que Gavrilovic s'est planté les 2 pieds dans la cage et a échangé des crochets. Je connais des deux qui tombent. Puis finalement, ben, c'est justement le gars de Sherbrooke qui est venu à bout de son adversaire, Jonathan Bosuku, par KO. Ça a été malade. À ce moment-là, tout le monde criait, hurlait dans l'Olympia. Puis bon, avec le Donkey Kong finish, on en a eu pour notre argent.
Excuse-moi de t'interrompre, quand tu dis très coloré, est-ce que c'est en raison de sa personnalité ou de ses cheveux?
Je dirais de tout. Stanya Gavrilovitch est un personnage avant, pendant, après son combat. Il crie beaucoup. Il y a eu beaucoup de problèmes avec la régie pour des problèmes qui sont venus il y a quelques années, il a réussi. Mais oui, c'est tout un personnage. Stanya Gavrilovitch, The Werewolf Experience qu'on a eu vendredi. Je vous invite à le suivre sur les réseaux sociaux. Même si vous ne suivez pas le MMA, Stanya Gavrilovitch vaut la peine d'être suivi. Les deux derniers combats qu'on avait, c'est des combats de championnat du monde. On a Alex Morgan qui a dominé Majed Amo dans un des combats qu'on pensait très compétitif. C'était le probablement meilleur combat au Canada qu'on pouvait faire chez 145 livres. Puis Alex Morgan a juste été complètement dominant, a réussi à finir son adversaire par TKO au début du quatrième round. Mais Alex Morgan a vraiment montré qu'il appartient aux grandes organisations, à l'UFC. Je ne sais même pas s'il va avoir un deuxième combat dans l'organisation Samouraï parce qu'il a gagné la ceinture. Puis peut-être que justement l'UFC, le Bellator, une grande organisation américaine, va s'intéresser au gars de la rive nord de Montréal. Puis finalement, ben, je dirais un peu la déception de la soirée parce que tous les combattants québécois avaient réussi à gagner leur engagement, sauf Michael Dufort qui a terminé, qui a perdu en fait dans une décision partagée des juges. Moi, on commençait à être très tard dans la soirée. J'avais vraiment donné le combat à Michael Dufort. Quand j'ai vu que ça allait être une décision partagée des juges, j'étais pas content. Puis là, la story est plus là, mais quand on apprend que c'est Cal Purple qui gagne la ceinture des 155 livres de Samouraï, on m'entend crier un nom venu des tripes, venu de Luke Skywalker quand il apprend que Darth Vader est son père. J'étais vraiment déçu. Toute une guerre, probablement le meilleur combat de la soirée, le meilleur combat de l'année au Canada que Michael Dufort et Cal Purple nous ont donné. Cal Purple qui revenait de l'UFC, qui voulait montrer qu'il appartenait à la plus grande organisation mondiale, mais il l'a montré contre Michael Dufort qui a tout donné. Les deux combattants ont vraiment fait ont vraiment donné le maximum. Puis au final, ben, c'est Purple qui a obtenu la faveur des juges. Mais honnêtement, c'est parce que j'étais vraiment pour Dufort, mais ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Puis il n'y aurait personne qui aurait été vraiment surpris de la décision. Donc voilà, ça a été vraiment une carte complètement folle. 6 combats qui ont délivré. Un gros comment on pourrait dire fuck you en français?
Okay. Un doigt d'honneur.
Un gros doigt d'honneur à Noah Crosswell qui ne s'est pas présenté à la pesée malgré que tout Samouraï lui a fait venir un combattant d'Europe pour qu'il vienne se battre contre lui et Crosswell a décidé de juste ne pas se présenter à la pesée. Donc, va chier Noah Crosswell. Et
excuse pour le langage explicite.
Je n'étais pas content. mais ils ont tout fait en tout cas. Bref.
C'est un petit comique.
Oui. Sa carrière, ça va être difficile de se faire un nom quand il ne se présente pas à la pesée. Mais sinon, c'était vraiment une belle carte. Samouraï MMA 2, ça va être en février 2022. Je ne sais pas, j'ai le droit de dire c'est où, fait que je ne le dirai pas, mais ça va être vraiment, vraiment fun. Ça regarde très bien pour les arts martiaux mix au Canada. J'ai vraiment apprécié ma soirée. Puis un gros props à mon ami Faberglass qui a été commentateur sur le stream en anglais sur Fight TV. La vidéo que je vous ai montrée, c'est lui qui était analyste. Grosse soirée pour tout le monde. On a vraiment eu du plaisir. Puis longue vie aux arts martiaux mix québécois.
Je suis juste un petit peu confus, Étienne, parce que tu me parlais d'Alex Morgan, le combattant d'arts martiaux mixtes, mais moi, dans ma tête,
je parle pas de la joueuse de soccer. Hier, j'ai tapé Alex Morgan sur Google, puis j'ai fait « Ah oui, c'est vrai, c'est une joueuse américaine, puis MMA, puis après ça, on est arrivé sur le Québécois, Alex Morgan. »
Et là, là. Si hier, c'est... Ben hier, oui, non, vendredi, c'était le retour là, des arts martiaux mixtes sur la scène avec du monde dans les estrades et tout le kit. Moi, ce matin, parce que, ben, il faut le rappeler, on enregistre dimanche. Ce matin, c'était mon retour à la couverture de la Formule 1 parce que ça faisait 3 semaines que j'étais pogné à aller commenter des matchs de volleyball et donc j'étais pas en mesure de regarder les courses. On avait le Grand Prix du Qatar, Grand Prix inaugural. C'était le premier Grand Prix de Formule 1 disputé au circuit de Losail qui, fait intéressant, est un circuit à la base conçu pour la moto et non pour la course automobile. Pas fameux. On ne s'attendait pas à un spectacle grandement intéressant et c'est exactement ce qu'on a eu, c'est-à-dire une course relativement plate. Toutefois... Ouais, ben, pas nécessairement une sieste parce qu'il y a eu quand même quelques points intéressants, mais globalement, ce n'était pas la course de l'année, on va dire ça comme ça. Et ça a commencé, en fait, l'action a commencé assez tôt avant la course parce que on a eu des résultats, en fait, les commissaires qui ont décidé d'octroyer des pénalités de 3 et 5 places respectivement à Valtteri Bottas et Max Verstappen en raison du fait qu'ils n'ont pas assez ralenti lors des séances de qualification sous drapeau jaune. Donc, Verstappen partait 7e, Bottas 6e. Ça avait donc laissé le champ libre pour Lewis Hamilton au départ, qui, au lieu de se retrouver avec Max Verstappen à côté de lui, avait Pierre Gasly, qui est un adversaire de moindre calibre, on va se le dire. Derrière lui, par contre, il y avait Fernando Alonso, qui a connu un excellent départ, mais heureusement pour Hamilton, lui aussi est parti comme un train, puis il a mené la course au grand plaisir d'Étienne d'un bout à l'autre. En fait, ça, il n'a jamais vraiment été ennuyé par personne. A été chercher sa 102e victoire à ce premier Grand Prix du Qatar. Ce qui a été intéressant, par contre, c'est le reste. Verstappen, qui, lui, bon, partait 7e, a connu de loin le meilleur départ, s'est ramassé 4e dès le premier virage. Et par les temps qu'on ait complété 5 tours, bien, il était 2e, il avait dépassé tout le monde devant lui, mais n'a jamais pu rattraper Hamilton. Et ensuite de ça, on surveillait Bottas parce que il fallait que Mercedes marque beaucoup de points pour conserver son avance au championnat des constructeurs. Bottas, ça n'a pas été facile et quand ça a commencé à le devenir, bien, son pneu avant-gauche a crevé et il a, en bon québécois, scrappé son aileron avant, a donc passé beaucoup de temps au puits et a finalement abandonné après la course. Ce qui laissait la porte ouverte à Red Bull pour marquer plusieurs points sur le championnat des constructeurs. Sergio Perez avait eu de la difficulté en qualification, mais a remonté lui également, partait 11e, a terminé 4e, aurait dû finir 3e en toute honnêteté, mais en fin de course, on a beaucoup de comiques qui ont essayé d'y aller avec un seul arrêt et qui ont vu leur voiture souffrir de crevaison, notamment Russell et Latifi chez Williams. Et on a dû mettre en fait en place la voiture de sécurité virtuelle pour sortir la voiture de Latifi qui était dans le chemin. Donc, ça a permis à tout le monde de conserver ses pneus plus longtemps et de finir la course sans trop de dommages. Perez n'a pas pu donc dépasser Fernando Alonso qui était devant lui. C'est donc dire que oui, pour la première fois depuis 2014, Fernando Alonso, l'idole de... En fait, le pilote préféré de pas mal de monde de notre génération lorsqu'on était plus jeune, a terminé sur la 3e marche du podium, premier depuis le Grand Prix de la Hongrie en 2014. Grosse célébration chez Alpine qui a vu Esteban Ocon terminer 5e également. Donc, au championnat, qu'est-ce que ça donne? Ben, ça fait qu'il nous reste 2 courses et seulement 8 points qui séparent Hamilton et Verstappen. Et au championnat des constructeurs, il y en a 6 qui séparent Mercedes et Red Bull. Prochaine course, c'est dans 2 semaines parce que là, on avait un programme triple qui se terminait. Et on a donc le Grand Prix d'Arabie Saoudite dans 2 semaines. Et ensuite, ce sera Abu Dhabi pour conclure la saison. À surveiller encore et toujours la bataille entre Ferrari et McLaren pour la 3e place. Ferrari s'est donné un petit coussin et Charles Leclerc est en train de rattraper Lando Norris. Il y a seulement 1 point qui les sépare chez les pilotes. On va aller parler de basketball, tiens, avec Vincent, bien sûr. Et Vincent, on ne va pas parler des citadins pour qui tu es devenu officiellement vendredi dernier, toi aussi. Non, jeudi dernier, dans ton cas, le descripteur officiel des citadins de l'UQAM au basket. Mais toi, tu viens par contre nous parler de ton véritable amour, soit le basketball de la NBA. Surprise! Depuis le début de la saison.
Yes. Oui, je veux parler un petit peu des plus grandes surprises cette saison dans le monde du basketball. Et numéro 1, la plus grande surprise, c'est vraiment que le fait que Kim Kardashian, après son divorce, ne sorte pas avec un joueur de la NBA. Ça, c'est grosse surprise numéro 1. Grosse surprise numéro 2, ça va être les Washington Wizards. Parce que Washington se retrouve numéro 2 dans l'Est, tout juste derrière les Nets de Brooklyn. Et ça, je compare ça à... c'est pas une surprise révolutionnaire, c'est pas quelque chose qui va changer ta vie, mais tu sais, c'est le genre de surprise quand, disons que tu as des amis qui viennent chez vous vendredi soir, puis vous buvez une coupe de bière, vous mangez des chips, puis tu te réveilles le samedi matin, t'es encore un petit peu sous, tu dors la journée. Dimanche, tu te réveilles, tu vas te promener tes chiens, tu t'entraînes un petit peu, puis tu t'installes à midi pour regarder comme les matchs de foot, puis t'as faim, puis tu trouves comme un pretzel dans ta barre. Genre, c'est comme un pretzel que tu avais mangé vendredi, qui est tombé dans ta barre, puis tu l'as retrouvé quelques jours après, puis tu le manges, puis ça fait juste rassasier quelques instants. C'est une belle petite surprise.
Plus on avance dans l'épisode, plus je me dis qu'il faudrait mettre un disclaimer que c'est pas pour les enfants de moins de 16 ans.
Vincent, ta situation est vraiment précise. Hein? On dirait que ça peut
plus... C'est sûr. Oh oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Toi, tu le sais, t'en as une barbe aussi grosse que la mienne. You know what I mean.
Je relate à... C'est ça, je me sens vraiment... À part le bout du chien, là, je me sens vraiment interpellé par ton anecdote.
Yeah, mais check, c'est les Wizards. Et la situation dans laquelle ils se retrouvent en ce moment, c'est miraculeux. Parce qu'il y a un an et demi, deux ans, si tu avais dit aux fans, aux partisans des Wizards qui se retrouvaient ici, ils t'auraient absolument ri d'en face. Parce qu'il y a deux ans, ils avaient Bradley Beal et John Wall. John Wall qui s'était déchiré à ACL, qui s'était blessé plein d'autres fois. Et John Wall qui coûtait 45 millions de dollars par année pour absolument rien faire. Et donc, le premier miracle pour les Wizards, ça a été d'être capable de trouver un partenaire pour échanger John Wall. Pour être capable de trouver quelqu'un pour échanger John Wall, il faut que tu trouves quelqu'un qui a un joueur aussi mauvais. Un joueur, du calibre de John Wall, entre guillemets, qui coûte aussi cher. Puis le seul autre joueur au monde qui coûtait aussi cher, c'était Russell Westbrook. Et Dieu merci pour les fans des Wizards, Russell Westbrook puis James Harden, ça a commencé à très mal aller il y a un an et demi, deux ans. Et James Harden a forcé les Rockets à échanger Russell Westbrook, puis la seule partenaire d'échange, ça a été les Wizards. Fait qu'ils l'ont shippé à Washington, et la dernière saison, la saison passée, Russell Westbrook avait l'air cuit. Comme cuit, c'était fini. Il était cooked. C'était plus bon. Il servait à rien. Et miracle numéro 2, c'est que le dernier mois et demi, deux mois de la saison passée, Russell Westbrook, a viré complètement fou. Russell Westbrook, avec ses triple-doubles, ses points rebonds, passes décisives, a été en mesure de traîner les Wizards dans les playoffs. Et en faisant ça, il a été également en mesure, simultanément, d'augmenter sa valeur d'échange. Et donc, pendant les 6 premiers mois de la saison, sa valeur d'échange était nulle parce qu'il jouait nul et il coûtait trop cher. Mais avec les 2 derniers mois, il y a des équipes qui se sont dit « il est peut-être redevenu à sa forme de MVP il y a de cela 3-4 ans. Prenons une chance sur lui. » Et la première équipe stupide d'avoir pensé ça, c'est naturellement les Lakers parce qu'ils sont épais, là. Regarde, ne se cachons pas les vraies affaires. Ils sont épais. Fait qu'ils se sont dit, on va combiner Russell Westbrook, on va combiner Carmelo Anthony avec LeBron James puis Anthony Davis, puis on va avoir une bonne équipe. Ils sont trompés. Peu importe.
C'est la meilleure équipe à 2K13. Puis
exact. Mais ils ont changé pour Russell Westbrook.
Cette équipe-là aurait gagné haut la main maintenant.
Exact. Puis ce qu'ils ont échangé pour Russell Westbrook, c'est Kentavious Caldwell-Pope, c'est... Caruso qui est parti à Chicago, c'était un 3-team deal, je crois. Ils ont échangé.
Non, Caruso, c'était
autre chose.
C'était un free agent.
OK, c'est qui sont. Ah, c'est Dinwiddie qui était un 3-teamer. Montrezl Harrell est également parti à Washington. Kuzma, puis j'en oublie un, Kentavious Caldwell-Pope. Fait que 3 jeunes joueurs défensifs de qualité qui sont également capables d'aller chercher des rebonds. Puis t'en as un là-dedans, au moins Kuzma, puis Kentavious Caldwell-Pope. Off the dribble, qui sont capables de créer leur propre shot. Fait que t'ajoutes ça à un corps de Bradley Beal, Rui Hachimura, Taylor Bryan, qui est leur centre super bon. Ils ont drafté Corey Kispert de Gonzaga, qui est un shooting guard extraordinaire, mais qui joue même pas parce qu'ils n'en ont pas besoin. T'as David Bertans, qui s'est un petit peu amélioré au niveau de son pourcentage de 3 points. Puis soudainement, t'as 10, 11, t'as 12 joueurs, c'est pas des 12 joueurs extraordinaires, mais t'as 12 joueurs de qualité. Après Bradley Beal, qui est peut-être un top 20, top 25 joueur dans la ligue, t'as quoi? T'as des joueurs qui se retrouvent dans le top 100, top 150? T'as rien d'extraordinaire, mais t'as des joueurs de qualité qui connaissent leur rôle, et c'est ça qui est important. Et leur rôle, pour l'instant, c'est de jouer de la défensive étanche. Ils sont 7e dans la ligue en défensive, OK? Et ça, c'est dû au fait que Kuzma, qui sort de l'ombre de LeBron, est capable de garder 1 à 4. Il est capable de garder les meneurs, les arrières, les ailiers et les ailiers forts. Ensuite de ça, tu rajoutes Quand Thomas Bryant va revenir, la défensive va devenir encore plus agressive parce que ce gars-là est capable de compacter le jeu dans la peinture de façon extraordinaire. Tu rajoutes à ça David Gafford, qui sont allés chercher aux Bulls en fin de saison dernière, et ce gars-là qui sort de nulle part pour protéger le panier comme si c'était un chaîne massif que personne n'était capable de tasser, puis t'es rendu avec une combinaison gagnante. Et le plus surprenant là-dedans, c'est que Bradley Beal joue même pas bien. Bradley Beal, je pense pas qu'il soit blessé, mais il a l'air au ralenti, il a l'air d'avoir perdu un step. Rui Hachimura, leur allié fort partant, n'a même pas encore joué, puis Thomas Bryant non plus n'a même pas encore joué. Alors, donc, le fait qu'ils soient ici, deuxième dans l'Est après Brooklyn, et il leur manque deux de leurs trois meilleurs joueurs, c'est extraordinaire et c'est tellement surprenant. Et j'adore ça, parce que ça rend l'Est tellement plus compétitif que quand des équipes comme Washington, quand des équipes comme Charlotte se retrouvent dans le mix. C'est merveilleux, j'adore ça, puis ça va continuer parce que, hey, même si un ou deux de leurs joueurs, leur niveau revient sur Terre, c'est une collection de 12, 13 gars qui fait en sorte, c'est strength in numbers, right? C'est le motto des Warriors. C'est, on a plein de gars qui font leur job, puis ça marche. Et en parlant des Warriors, c'est également une très, très belle surprise. On pensait qu'ils allaient être bons, mais on ne pensait pas qu'ils allaient être bons à ce point-ci. Puis ça, c'est pas mal dû au fait que les notions d'espacement traditionnel de basketball, lorsque tu as Steph Curry sur ton équipe, tu les prends, tu les chiffonnes, puis tu les lances par la fenêtre. Parce que Steph Curry modifie toute l'activité sur le bois franc. C'est incroyable. Okay? Traditionnellement, on se dirait, on peut pas avoir plus qu'un joueur sur le floor, sur le court, qui est pas capable de tirer. Si on a ça, ça va tout compacter. Il y aura deux gars que la défensive ne devra pas garder sur le périmètre. Et donc, ça va mettre plus de gars dans la clé, ça va mettre plus de gars dans la peinture, dans la bouteille, puis ça va empêcher à nos scoreurs d'entrer et d'avoir de la place pour manœuvrer dans la clé. Quant à Steph Curry, t'as pas ce problème-là, parce que Steph Curry va évoluer, son activité primaire, ça va être sur le périmètre. Ils vont devoir mettre deux, sinon trois gars sur le périmètre pour le garder. Fait que ça leur donne deux gars maximum, trois max, à mettre dans la clé pour contrer les coupures vers le filet. Et quand Klay Thompson va revenir, tu rajoutes à ça un autre gars qui doit se faire doubler sur le périmètre, puis ça fait juste... Ça rend la clé comme du fromage suisse. Il y a tellement d'espace, c'est aéré, les gars peuvent manœuvrer, ils peuvent bouger, puis pas se faire bousculer, puis ça va être facile compter, puis des lay-ups. Fait que ça, c'est une énorme chose. La deuxième chose, c'est que l'obstination de Steve Kerr ces dernières années de continuer à jouer le beau jeu plutôt que de jouer le pick and roll porte finalement ses fruits, parce que les jeunes croient que c'est un système qui fonctionne et ils ont acheté, they bought in, all right? Ils y croient et ils le run à la perfection. Laisse-moi vous expliquer un petit peu le pick and roll. Fait que au basketball, le jeu le plus inarrêtable, c'est le pick and roll. C'est tu prends le gars qui a le ballon, t'appelles pour un écran, le gars pose, le gars qui arrive, le joueur numéro 2 du pick and roll, arrive, pose un écran devant le gars qui a le ballon. Le gars qui a le ballon coupe à droite, coupe à gauche, et le gars qui vient de poser l'écran coupe vers le filet. Quand un gars comme Steph Curry qui demande tellement d'attention défensivement, qui joue sur le pick and roll, le gars qui pose l'écran va être tout seul à chaque fois, puis ça, il va couper et puis il va être tout seul au filet. Ça devrait être inarrêtable. Mais il ne l'utilise pas assez. La statistique que j'ai vue, c'est que la personne qui joue le plus le pick and roll, fait quand tu joues du pick and roll, c'est parce que tu as une utilisation élevée. Tu as toujours le ballon dans les mains. Le gars qui joue le plus le pick and roll dans la NBA, c'est Luka Doncic. Par 100 possessions, il roule 75 pick and roll. C'est ahurissant. Les deuxièmes sont à 60. C'est Harden puis je crois Trae Young. Steph Curry est à 25 pick and roll par 100 possessions. On parle du meilleur joueur au monde sur le pick and roll puis il en roule juste 20-25 par 100 possessions. Ça, c'est un testament au fait qu'il est capable de bouger sans le ballon et d'impliquer ses joueurs même s'il n'a pas le ballon dans la main. Fait que je trouve ça extraordinaire. I love it. Et petite dernière stat, parce que je sais qu'il faut qu'on aille rapidement. Dernière stat sur Steph Curry. Steph Curry, dans ses derniers matchs, je pense que c'est 4 de ses 5 derniers matchs, il est rentré 9 3 points. Right? Dans la NBA, quand tu comptes 5 3 points dans un match, c'est impressionnant. Quand on compte 6-7, c'est ahurissant. Quand on compte 8-9, c'est stupide. Okay? Tu ne devrais pas être capable de compter 9-3 points dans un match dans la NBA. Les joueurs qui ont le plus de matchs en comptant 9-3 points dans l'histoire de la NBA, tu as Steph Curry qui en a 38. Il a fait 38 fois. Au numéro 2 du classement, tu as Steph Curry depuis avril 2021. Il l'a fait 10 fois. Au troisième rang à égalité, tu as James Harden puis Damian Lillard avec 9. Ils l'ont fait 9 fois chacun. Steph Curry l'a fait 38. C'est juste pour vous donner une perspective puis vous faire comprendre à quel point ce gars-là est des années-lumière devant tout le monde au niveau des tirs de 3 points. C'est complètement stupide. Puis c'est juste le fait qu'il bouge, qu'il est capable de bouger sans le ballon et de faire ça en même temps dans les mêmes matchs, ça rend ça tellement plus compliqué pour les défensives adverses.
Right. Ben écoute, Vincent, c'est sûr qu'on aurait pu continuer à t'écouter pendant longtemps à nous parler de basket, comme on le fait souvent, mais comme tu l'as si bien dit, il faut aller un peu plus vite dans le temps parce qu'on est beaucoup, on a beaucoup de sujets à traiter. Et un de ces sujets-là, un de ces autres sujets dont on va traiter aujourd'hui, ce sont les différents prix qui ont été remis au cours de la dernière semaine dans la MLB. Et Tom, tu vas, I guess, nous en faire un petit résumé.
Ouais, ça, je sais que Étienne, t'es tenu de m'entendre parler de baseball, de retour en force. Inquiète-toi pas. Inquiète-toi pas, ça devrait être la dernière chronique que je fais d'ici à un mois et demi. Donc, ça, remise sera faite dans la MLB. On commence par le plus important, les trophées de joueurs. Puis, sans grande surprise, dans l'américaine, ça a été Shohei Ohtani qui l'a remporté de manière unanime devant Vladimir Guerrero Jr. et Marcus Semien, tous les deux des Blue Jays. Vraiment une saison incroyable du côté d'Ohtani. Je ne répéterai pas tout ce que j'ai dit depuis le mois d'avril, mais vraiment une saison qu'on n'avait pas vue depuis une centaine d'années de son côté. Dans la nationale, comme j'avais prédit, ce fut Bryce Harper qui a remporté son deuxième en carrière après sa saison 2015 avec les Nationals. Harper qui a mené les Phillies à deux matchs d'une participation aux séries et a connu une saison avec une moyenne au bâton de 309 avec 35 circuits et 84 points produits et a mené les ligues majeures au chapitre de l'OPS Plus avec 179. Pour vous donner une idée de comment ça marche l'OPS Plus, la moyenne du baseball majeur c'est 100. Donc 179 c'est excellent. Du côté du Cy Young, dans l'américaine, Robbie Ray, lanceur des Blue Jays, qui a remporté le trophée dans l'américaine après avoir mené les majeurs au chapitre des rétro-bâtons avec 248 et l'américaine au chapitre de la moyenne de points mérités avec une moyenne de 2,84. C'est le quatrième lanceur des Blue Jays, en fait, à remporter le trophée et le premier depuis Roy Halladay en 2003. Du côté de la nationale, c'est Corbin Burnes qui s'est mérité et ça a été une extension de sa part. Moi, je m'attendais plus à Max Scherzer, mais il n'a pas du tout volé son trophée. Par contre, a mené les majeurs au chapitre de la moyenne de points mérités avec 2,43 et au chapitre du pourcentage de rétro-bâton et du ratio rétro-bâton et but sur balle. Donc, vraiment une excellente saison de la part de Corbin Burnes. Et le premier lanceur des Brewers en 39 ans a remporté le trophée Cy Young. Du côté des recrues d'année, dans l'américaine, je crois qu'on s'attendait plus ou moins, puisque c'est Randy Arozarena. Oui, il a connu une excellente saison. Par contre, personnellement, j'ai oublié qu'il était éligible au trophée parce qu'il a joué en 2020 avec les Rays, avec une toute une saison, toute une série et en 2020. Et c'est lui qui a remporté le trophée dans l'américaine. Et du côté national, c'est Jonathan India des Rays qui a remporté un peu sorti de nulle part. A mené les recrues des ligues majeures pour le pourcentage de présence sur les buts, les doubles, les buts sur balle, les points marqués et les matchs joués, et a terminé deuxième au chapitre de l'OPS. Donc, très mérité. Et du côté des trophées de gérant d'année, c'est Kevin Cash des Rays, qui a remporté sa deuxième année consécutive après une autre saison de 100 victoires à Tampa Bay. Et c'est Gabe Kapler avec les Giants qui s'est remporté du côté national, lui qui a mené l'équipe à une surprenante fiche de 107 victoires pour mener les majeurs, en fait. Donc,
encore une fois, Tom, globalement, dans tous les prix, pas pour nous vanter, mais on a eu quand même un pas pire. On a quand même scoré pas pire dans nos prédictions.
On est fort, pareil.
Mais bon, on connaît ça, notre baseball.
Oui, donc c'est ça. La saison 2021 qui se conclut officiellement, on peut dire. Et maintenant, avec les agents libres qui devraient commencer à signer dans pas long, la saison 2022 va commencer. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'elle va commencer à temps? Parce qu'on sait il y a des négociations de travail qui s'en viennent cet hiver. Ça va être très intéressant à suivre.
Dans le département des fausses bonnes idées, jouer un match de soccer en plein mois de novembre à Edmonton, ça se peut que ça se classe semi-haut dans ce département-là. Si tu viens du Mexique, par contre, si tu viens du Canada, ben, ça peut être une stratégie somme toute intéressante. Et Olivier, ben, c'est exactement ça qu'on a eu lors du match de qualification. En vue de la Coupe du Monde, de la prochaine Coupe du Monde, le Canada qui recevait le Mexique dans un stade où la température sur le terrain était rien de moins que moins 16 degrés.
Effectivement, Johan, c'était extrêmement froid pour les Mexicains. Ils ont littéralement, pour utiliser l'expression québécoise, gelé. Et c'était l'objectif des Canadiens. Ils voulaient absolument qu'il y ait froid, même s'il est rendu qu'ils s'entraînaient dehors. Les Canadiens, par contre, avaient le droit d'entraîner à l'intérieur, tout chaud. Les Mexicains, oh non, jouer dehors. Allez vous entraîner dehors. Victoire du Canada, 2-1 à Edmonton. C'est le joueur canadien Cal Larin qui a inscrit les deux buts, un à la 45e et un à la 52e minute. Hector Herrera a inscrit le seul but pour le Mexique à la 90e minute, donc en temps supplémentaire. Le Mexique n'était pas vraiment en forme, on le voyait, ils avaient froid. Avant le deuxième but du Canada, c'est après le deuxième but que là, ils ont commencé à se réveiller. Ils ont dit « Ouais, c'est vrai qu'on commence à perdre 2-0, il faudrait bien qu'on joue. » Par contre, bon pressing du Canada en début de rencontre. On voyait qu'ils étaient très présents. Ils n'avaient pas peur d'attaquer les Mexicains. Le Canada avait décidé aussi, c'était une stratégie pour le Canada, de jouer à Edmonton parce qu'ils ont vu qu'ils jouaient contre le Costa Rica et le Mexique à domicile. Donc, ils se sont dit, ça va être idéal, on va jouer à Edmonton. Normalement, ils jouent à Toronto. Puis, c'est pas les seuls à avoir utilisé cette technique-là. Les Américains aussi avaient utilisé cette technique-là. Normalement, ils jouent à Houston. Contre le Mexique, ils ont décidé de jouer à Cincinnati.
Pas la même température, on va pas se mentir.
C'est ça, c'est pas la même température. Et en même temps, on va monter dans le nord. Plus de voyages pour les Mexicains, plus difficile pour eux. Et c'est vraiment, c'était moi, j'ai regardé ça sur RDS et moi, je partais à rire. C'était vraiment impressionnant de voir le contraste entre les Mexicains qui ont froid et les Canadiens sur le banc qui avaient le manteau détaché. Il y en a un lors du deuxième but, il s'est lancé dans la neige complètement. Ouais,
ça, c'est de loin la célébration la plus canadienne qui existe. C'est se garocher dans un banc de neige.
Littéralement ça. Et même, j'en ai vu un joueur, je me souviens plus du nom, il était en t-shirt, littéralement.
C'est Maxime Crépeau.
Ouais. Non, mais je pense qu'il y avait un défenseur aussi qui était en t-shirt pour le Canada. Peut-être que je me trompe, il faudrait genre vérifier.
Il y avait, sur le terrain, il y avait Johnston qui jouait en shirt t-shirt.
Johnston jouait en shirt t-shirt, ça me faisait penser à lorsqu'on est en hiver, au mois de janvier, il y en a toujours un à moins 40, il est en t-shirt, short, il y en a toujours un. Et pour terminer ma petite chronique, il faut bien que je mentionne le journal sportif mexicain Ovaciones à la une. C'était magnifique. Ils ont mis, je traduis de l'espagnol, Blanche-Neige et les 11 nains.
Ah!
Ah, c'est bon!
Mais pour vrai, je comprends pas. Oui, ils sont allés jouer à Cincinnati, là, mais je comprends pas comment la CONCACAF. La première, ils ne savaient pas c'était Edmonton. Ils ont vu ça aller puis ils ont fait OK, vous allez jouer là. Ben, je ne peux pas croire qu'ils aient laissé aller ce match-là. Alors que le Canada, historiquement, n'est pas particulièrement favorisé par la CONCACAF. D'envoyer les Mexicains et les Costa-Ricains, deux adversaires directs à Edmonton, je ne comprends pas. Puis on le savait que ça allait être ça, ce match-là. Mais je pense que dans 25 ans, on va se rappeler encore du match contre le Mexique, la victoire dans la neige, c'était complètement fou. C'était vraiment historique.
Les images au début de la journée, j'ai vu le terrain pendant le match, je me disais, crème, il y a des gens qui ont travaillé des heures supplémentaires pour qu'il n'y ait plus de neige sur cette affaire-là.
Mais en même temps, il y avait recouvert d'une pellicule de plastique le terrain. Quand il y a eu de la neige, ils ont tout recouvert d'une pellicule de plastique, puis après, ils l'ont enlevé juste avant la game pour être sûr que ça ne soit pas trop glissant. Pour être sûr que genre le terrain soit au moins un minimum sécuritaire.
J'avoue que ça aurait été le fun, par contre, de voir des joueurs s'en venir, je sais pas, en échapper, mais une montée offensive, puis faire le ballon aussi le cul, t'sais.
Mais c'est une rencontre vraiment différente. C'est une rencontre vraiment différente, puis j'ai adoré. Normalement, des games de soccer, parfois, ça peut être long. Parfois, on le voit, parfois la défensive, pour bien fabriquer un jeu, ça peut être long. Mais là, c'était beaucoup d'attaques, puis des fautes étaient appelées très souvent parce qu'on voulait être sûr qu'un joueur ne se blesse pas, parce qu'avec les températures qu'ils avaient, bien, c'est sûr que c'est plus facile pour un joueur de se blesser. Fait que on voyait que l'arbitre était beaucoup plus strict. Fait que pour moi, il y a un petit mot qui s'est passé par la CONCACAF.
Ça se pourrait très bien.
Avec ça, le Canada est la meilleure équipe. C'est l'équipe qui a marqué le plus de buts en 2021 dans les qualifications de la Coupe du Monde. C'est quand même impressionnant.
Puis ils sont premiers en plus dans le classement actuellement dans l'octagone.
Mm-hmm.
Absolument. Ça regarde très, très bien pour le Canada jusqu'ici. On va leur souhaiter que ça continue comme ça. Parlant de bien aller, ben, vous comprendrez qu'on est dans le segment soccer de l'épisode. On va continuer. On a deux autres petites chroniques et on va parler à l'homme qui vient de s'ouvrir une bière. Étienne, ben, en fait, c'est une nouvelle de dernière heure presque. Bon, le CF Montréal avait encore du soccer à jouer, même s'ils étaient éliminés des séries de la MLS. C'était pour aller être couronné champion canadien.
Le CF Montréal, historiquement, et l'Impact de Montréal avant, a deux objectifs. Un, faire les séries. Deux, remporter le championnat canadien. Un objectif qui, visiblement, n'a pas été réussi, mais celui de gagner le championnat canadien, lui, c'est un succès. Grosse victoire. C'était un must-win, quand même, au Stade Saputo contre Toronto, qui a été une des pires équipes de la Ligue cette année. C'était à la maison, il fallait gagner. C'est un classique canadien. Toronto-Montréal, déjà là, c'est un classique du soccer canadien. En plus, on avait une finale de championnat canadien, une redite de 2019, où cette fois-ci, on avait joué au BMO Field de Toronto. Puis, c'est dans un match dominé là, par les Montréalais que le CF l'a emporté. Un but de Kyoto à la 72e minute, mais honnêtement, c'est un match qui a été dominé par les joueurs du CF Montréal. Un peu à l'image de la saison, quelques problèmes de finition. On réussit à bourdonner, surtout sur les ailes. On réussit à amener le ballon sur les ailes avec Mathieu Chouanière qui a joué une saison complètement folle. Et Zachary Beauguillard, jusqu'à temps qu'il se fasse remplacer, on était à un moment dans le match. La 60e minute, oui, c'est ça. L'attaque venait de beaucoup des ailes, mais on avait de la difficulté à finir, que ce soit Torres, Kyoto, des fois Hamed Hamdi. On avait un petit peu de difficulté. Mais sinon, si on regarde les statistiques, puis pour avoir vu le match, 23 tirs, 9 cadrés du côté du CF Montréal, 4 tirs, aucun cadré du côté du Toronto FC. Le Toronto FC a été dominé d'un bout à l'autre de la rencontre, mis à part à la 90e minute où on a failli égaliser, on a frappé le poteau du côté du Toronto FC. Bon, on serait allé au tir au but à ce moment-là. Mais tout de même, vraiment une belle rencontre du CF Montréal qui clôt sa saison devant ses partisans avec un trophée. Le champion canadien qui a défendu son titre, qui est double champion, la saison ayant été annulée en 2020. On a gagné en 2019 et en 2021. Puis bon, pour ceux qui s'y connaissent un peu moins, la victoire au championnat canadien, c'est la porte d'entrée vers la Ligue des champions de la CONCACAF. Et une compétition qui, relativement, malgré le niveau de l'équipe, sourit quand même au CF Montréal. On se rappellera de Santos Laguna. Ben, en fait, on se rappellera des quarts de finale en 2008, je crois. Puis en 2015, Cameron Porter contre Pachuca. Quel moment! Il y a eu Cameron Porter. Après ça, il y a eu Alar Wallensee, l'équipe costaricaine. Puis on a passé à 45 minutes de gagner la Ligue des champions, qui est comme probablement l'équivalent de gagner 5 Coupes Stanley consécutives, là, si on veut transposer ça au hockey. Donc, on a passé 45 minutes bien, bien près de faire tout ça. Donc, c'est une compétition qui sourit très bien aux Montréalais. Puis, c'est tout le temps le fun de revoir le CF Montréal au sein de la Ligue des champions. Puis bon, c'est avec une victoire au championnat canadien dans la Coupe canadienne que ça a passé. Puis voilà, on termine la saison sur une bonne note du côté du CF Montréal et des hommes de Wilfred Nancy.
Et la Ligue des champions, elle commence en février, si mes souvenirs sont bons. Je pense que c'est janvier-février dans ce coin-là.
La COVID bouscule beaucoup de choses, mais habituellement, c'était ça. C'était comme début mi-février, on commençait les quarts de finale. Mais là, il n'y a plus de groupe. C'est vraiment bizarre comment c'est, mais oui, habituellement, c'est qu'on commence la saison avec la Ligue des champions. Ouais.
Right. Ce sera à surveiller. Bonne chance au CF dans cette compétition. Thomas, on continue en soccer, on s'en va du côté de l'Angleterre. Je ne suis pas norvégien, je ne vais pas me risquer, je vais juste dire que Manchester United a plus de coach, en fait.
Oui, après un début de saison assez décevant, désolé Étienne, du côté de Man U, on a enfin décidé de se séparer de Ole Gunnar Solskjaer. Après une fiche de...
Ah, Thomas, je t'arrête à l'instant. La ronde des 16 va commencer le 15 à 17 février et le deuxième leg va être de 22 au 24 février pour la Ligue des champions. Donc, on va commencer mi-février. C'était vraiment pas mon intention de te couper pendant que tu parlais de Ole Gunnar Solskjaer. Ça n'a vraiment aucun lien, tout ça.
Écoute, je laisse ça sider, mais j'ai des doutes. Donc, ça, des petits saisons décevants du côté de Man U. Ils sont probablement en 8e place de la Premier League avec une fiche de 5 victoires, 2 matchs nuls et 5 défaites. Et seulement une victoire à leurs 5 derniers matchs de la Premier League. Et après des défaites, je serais pas humiliante, mais très humiliante. De 4-1 contre Watford en fin de semaine et de 5-0 contre Liverpool il y a quelques semaines. Ils ont enfin décidé de se séparer de AD. On s'entend aussi que le parcours en Ligue des Champions auquel il se fait carry totalement par Cristiano Ronaldo à chaque match. C'était pas lui, il serait dernier du groupe. Ça n'aide pas. Aussi quelques décisions tactiques du côté de AD qui se passent pas bien. Une mauvaise utilisation des jeunes. Je pense notamment à Donny van de Beek qui ont été cherchés l'été passé et qui joue presque pas depuis son arrivée à Manchester United. Lui qui était nominé au Ballon d'Or il y a seulement 2 ans. Donc, écoutez, c'est toutes ces décisions-là qui ont mené à son renvoi. Là, ça va être Michael Carrick, légende du club des années 90, qui va assumer l'intérim pour l'instant. Et la question est de savoir qui est-ce qui va remplacer. Parce que là, les candidats commencent à baisser, notamment, on sait qu'Antonio Conte est parti, a décidé de ne plus rapporter de trophée, en fait, avec les Spurs. Xavi qui est rentré à la maison, rentré au bercail avec le FC Barcelone cette semaine également. Et Steven Gerrard, la légende de Liverpool, qui fait son entrée en Premier League comme entraîneur avec Aston Villa après un parcours assez fructueux avec les Rangers. Et quand je dis Rangers, je ne pas ceux de New York, ni ceux du Texas, ni même ceux de Montréal, mais du club écossais. Donc, c'est ça, beaucoup de changements en Europe, notamment dans les dernières semaines, en fait, notamment à Manchester United.
C'est ce qui va conclure ce segment soccer. On va aller parler de football maintenant. Vincent, ça va pas très bien pour les Bills, et ça, je suis surpris de le savoir.
Jusqu'à la semaine passée, les Bills avaient la défensive classée numéro 1 dans la Ligue. En termes de points accordés, en termes de comme verges accordées, en termes de DVOA, en termes de tout. Leur défensive semblait inarrêtable. Ils semblaient capables de contrer tous les types d'attaques, que ce soit au sol, que ce soit dans les airs. Leur défensive était ridicule. Mais après leurs 2 défaites dans les 2 dernières semaines, on réalise que c'était peut-être une illusion, que c'était assez frauduleux comme fiche, parce que si on regarde ça de plus près, l'expression en anglais, c'est « to get fat on ». Genre, quand tu manges trop quelque chose qui est trop sucré ou c'est trop du gras ou tu sais, c'est trop facile, « you get fat about it », ben, c'est ça qui est arrivé pour les Bills, parce qu'ils ont « get fat » sur des offensives de piètre qualité. La raison pour laquelle ils étaient bien classés défensivement, c'est parce qu'ils ont affronté les Steelers avec Ben Roethlisberger, qui est un cadavre. Ils ont affronté les Dolphins avec Tua Tagovailoa, qui est capable de rien faire de bon. Puis quand lui est capable de rien faire de bon, ils mettent Jacoby Brissett, qui est non plus capable de rien faire de bon. Ils ont affronté la Washington Football Team. Tyler Heinicke, c'est pas une solution à quoi que ce soit. Ils ont affronté les Texans, qu'ils ont battu 40-0. Ils ont affronté les Chiefs, quand ça allait super mal pour les Chiefs. Les Dolphins encore. Et donc, ça, c'est toutes des attaques, pardon mon français, de marde. Donc, quand tu peux jouer ces types d'équipes-là semaine après semaine après semaine, c'est sûr qu'à tête défensive, il va avoir des bonnes statistiques. Mais, comme ils viennent de le prouver, c'était frauduleux. Parce que la dernière semaine, ils ont. Non, c'est peut-être pas frauduleux jusqu'à la semaine passée parce que, hey, ils sont. Caline, c'est complètement ridicule. Ils ont perdu 9-6 contre les Jaguars, les Jacksonville Jaguars. Ensuite, ils ont battu les Jets, puis là, ils viennent de se faire démonter par les Colts. Jonathan Taylor, qui a joué au collégial à Wisconsin, qui a gagné le Running Back of the Year au collégial 2 ans de suite parce qu'il est complètement ridicule. Il est
je me trompe pas, c'est un Canadien aussi, right?
Jonathan Taylor? Non, ça, c'est Chuba Hubbard.
C'est ça.
Jonathan Taylor est complètement ridicule. J'ai joué à Wisconsin, puis là, il s'est fait drafter. Il est dans sa deuxième année ou sa troisième année pour les Colts. Et deuxième, il vient de courir pour 150 verges et 5 touchdowns contre les Bills. Tu sais, la ligne, les Bills qui se vantent de leur ligne défensive avec les AJ Epenesa, avec les Ed Oliver, avec les Thibodeau. Tu sais, c'est supposé être une ligne défensive de qualité. Puis les Quentin Nelson, les Ram Ratchek viennent de les démonter. Et ça, c'est inquiétant parce que. Parce que les Bills ont construit leur offense sur la passe. J'en ai parlé un petit peu avec Étienne à son podcast d'un bout à l'autre. Les Bills ne sont pas capables de courir la balle. Que ce soit avec Matt Breda, Devin Singletary ou Zach Moss, ils ne sont pas capables de courir la balle dans le milieu. Et ça fait en sorte qu'ils sont obligés de lancer. Donc, ils sont unidimensionnels à l'attaque. Et lorsque ça ne fonctionne pas à l'attaque, il va y arriver des jours où ça ne va pas fonctionner à l'attaque, mais quand ça ne fonctionne pas, puis la seule chose que tu fais, c'est passer le ballon, tu donnes le ballon à l'autre équipe avec beaucoup de temps qui reste. Tu sais, quand une passe incomplète, ça arrête le temps. Une passe incomplète, ça arrête le temps. Et quand quelqu'un attrape une passe, puis ça arrête le temps dans les 5 dernières minutes des halves, des demi, pardon. Fait que jouer par la passe, et quand ça ne va pas bien, ça laisse énormément de temps à l'adversaire. Et quand tu as une ligne défensive, comme celle des Bills, qui est en train de se faire tronçonner, c'est une mauvaise combinaison. Parce qu'en plus de ne pas avoir la balle, les Bills, de ne pas avoir la balle à l'offensive, ils ne seront pas capables d'arrêter la course. Fait que ça, c'est juste un concours de circonstances qui fait en sorte que, mon Dieu, ça n'a pas l'air de bien aller pour les Bills, puis ça ira pas mieux. Parce que dans les prochaines semaines, ils vont affronter les Saints. Les Saints qui ont la meilleure défensive au sol dans la NFL. Donc, ils ne seront pas plus capables de courir. Ensuite de ça, tu affrontes les Patriots qui ont historiquement une défense incroyable contre la course. Ensuite de ça, les Buccaneers, qui ont comme la deuxième meilleure défensive par la course. Fait que dans le prochain mois et demi, ils ne seront pas plus capables de courir. Ça va mettre encore plus de pression sur Josh Allen. Et ça va mettre encore plus de pression sur Stephon Diggs. Parce que je ne sais pas ce qui est arrivé au receveur des Bills. Les Colts, je sais ce qui est arrivé à Cole Beasley. Il refuse de se faire vacciner. Quel con. Fait que garde, lui est épais. Il y a eu beaucoup de drama pendant la saison morte. Il n'a pas pu s'entraîner comme il faut. Il est arrivé et il ne fait absolument rien cette saison. Ce qui est plus surprenant, c'est que Gabriel Davis, qui serait leur ex-receiver après Stephon Diggs, ce gars-là était supposé de prendre un pas vers l'avant cette saison, puis ça n'arrive pas. Isaiah McKenzie est super explosif, mais il n'a pas la finesse et il n'est pas raffiné pour courir des routes. Fait que tu ne peux pas le mettre dans le slot parce que tu ne peux pas mettre Stephon Diggs dans le slot. Il est trop bon, tu vas le mettre au X. Fait que il faut que tu trouves quelqu'un pour mettre au Y. Normalement, ce serait Cole Beasley, mais lui, il joue extrêmement mal. Fait que tu essaies de mettre Isaiah McKenzie, mais il n'est pas assez raffiné pour courir ces routes-là de façon constante. Fait que là, c'est juste un énorme bordel parce que Stephon Diggs est le joueur dans la NFL, le receveur dans la NFL, pardon, qui se fait le plus couvrir à un taux de quasiment 57%. Si tu as un joueur qui se fait couvrir, double couvrir à 57%, tu devrais être en mesure de trouver au moins un autre receveur qui est ouvert sur tous les jeux, mais ça n'arrive pas. Puis en plus, leurs running backs ne sont pas capables de get open out of the backfield. Devin Singletary, qui était super explosif à Memphis pendant toute sa carrière au collégial, puis là, soudainement, il n'est pas capable d'attraper un ballon. Je ne comprends pas ce qui se passe. Fait que là, encore plus de pression pour Josh Allen pour courir lui-même. Puis il se fait maganer, il se fait fesser, il se fait défenestrer à chaque fois qu'il court parce que sa ligne offensive n'est plus capable de bloquer pour lui. C'est juste l'enfer. Et je ne vois pas la solution. Fait que il y a 3 jours, quand, il y a 2 jours, quand j'ai parlé à Étienne, puis que j'ai dit que je pensais que les Bills allaient faire le Super Bowl, c'était une des choses les plus stupides que j'ai dit de ma vie. C'était complètement ridicule et je regrette énormément ce que j'ai dit parce que je vois pas de solution pour les problèmes qui se dessinent à l'horizon pour les Bills. Puis j'aurais aimé ça parler des Panthers, mais il y aurait juste 10 minutes, fait que ça va être tout.
On pourra, je suis sûr qu'on pourra en parler une autre fois des Panthers si ça va moindrement.
Juste rapidement, 30 secondes, 30 secondes. Ils sont épais parce que pensez à ça. Pensez au fait que ils ont, pour signer Cam Newton, ils sont allés chercher Teddy Bridgewater. Teddy Bridgewater, ils l'ont essayé parce que ça ne fonctionnait pas. Ils ont échangé un choix de deuxième ronde pour Sam Darnold, ça ne fonctionnait pas. Et là, finalement, it all comes full circle. Ils se retrouvent avec Cam Newton encore à jouer pour eux quand ils auraient pu tellement facilement juste drafter Justin Fields, numéro 8 cette saison, ou Mac Jones, numéro 8 au repêchage, à la place de J.C. Horn. Mon Dieu!
Et c'est également aussi, là, pour conclure ce segment football, c'est mon moment préféré de la semaine où on remercie certaines équipes pour leur participation à la NFL cette semaine et qu'on leur souhaite bonne chance pour la semaine prochaine. Cette semaine, on remercie les Falcons qui n'ont pas inscrit de points jeudi dernier contre les Patriots. À la semaine prochaine, messieurs. Merci pour votre effort. On va maintenant parler de patinage artistique. Olivier, c'est ton domaine. Tu es la seule personne à proprement dit ici qui connaît relativement bien ça. Donc, on va t'écouter parce que, ben, je vais être honnête avec vous, messieurs, je ne savais pas que les internationaux de France de patinage artistique, c'était quelque chose qui existait. Je suis donc très curieux d'en apprendre un peu plus sur ce que c'est, comment ça marche, puis qu'est-ce qui s'est passé. Olivier, on t'écoute.
Et je suis déçu de toi, mon cher Johan. Donc.
Ah, que veux-tu? On ne peut pas connaître tout sur tous les sports.
Donc, pour bien expliquer en quoi consiste donc la saison d'automne, on va commencer avec assez large, la saison d'automne de patinage artistique. Donc, la saison se formule à 6 grands prix. Et donc, aux 4 coins de la planète, bien évidemment, le Canada, États-Unis, Japon, Russie, etc., etc. Donc, chaque patineur vont patiner pour 2 compétitions au maximum. Donc, Canada et Japon, par exemple, ou États-Unis et Italie, par exemple. Et selon le classement des patineurs qui vont terminer, donc le premier, il va avoir un certain nombre de points. Donc, le premier a 15 points, le deuxième a 13 points, etc., jusqu'à la 8e place. Et avec ce classement-là, ils vont prendre les 6 meilleurs et ils vont faire des finales de Grand Prix qui se dérouleront. Donc, dans 2 semaines. Donc, en ce moment, les internationaux de France, c'était la quatrième étape. Donc, grande performance aussi, si on peut parler maintenant des performances en danse de Giles et Poirier, qui ont terminé, donc des Canadiens, qui ont terminé à 2e position. Ils ont fait aussi au Canada, ils ont terminé premier. Donc, ils ramassent 28 points sur une totalité de 30. Donc, qualifiés à la finale assurée. Les premiers sont bien évidemment les Français, Papadakis et Cizeron. On s'y attendait sincèrement avec vous. Pour être très sincère, ils avaient terminé à la 2e place aux Jeux olympiques et ils ont remporté par 21 points de plus. Donc, c'est sûr que face aux Canadiens, donc c'est sûr que c'est normal de voir la première position pour les internationaux de France en danse pour Papadakis et Cizeron. Deuxième meilleure performance pour les Canadiens, James et Radford. Ils ont terminé à la 4e place. C'est assez dommage parce qu'au programme court, il faut savoir qu'en passage artistique, il y a 2 programmes, le programme court et le programme libre. Au programme court, ils ont terminé à la 3e place et malheureusement, le programme libre était un peu plus complexe. Donc, ils sont terminés à la 4e place. Le premier podium doit encore entendre pour ce tout nouveau couple. C'est leur première saison ensemble, même s'ils sont âgés au-dessus de 30 ans, si je me souviens. Il faudrait que je vérifie. Je ne suis pas sûr de mon anecdote. Ou sinon, après, chez les messieurs, Keegan Messing, le Canadien, a terminé à la 6e place sur 12. Donc, malheureusement pour lui, c'est pas le début de saison qu'il espérait. C'est sûr qu'il vient tout juste d'avoir un enfant. Il doit se concentrer, pour être très sincère, avec sa famille. C'est bien évident lorsque ton enfant a 4 mois.
Ouais, il y a certaines excuses là, dans son cas.
Ouais, non, c'est ça aussi. Là, il s'entraîne moins souvent comparé à des professionnels. Puis ça le dérange pas. Tu sais, Il fait son plaisir en patinant, et c'est ça le plus important, on doit se l'avouer. Chez les dames, aucune Canadienne n'était présente. C'est sûr que le Canada, chez les dames, est un peu plus complexe. Très souvent, c'est des Russes ou des Japonais. Et bien évidemment, la Russe Chelbakova a terminé à la première position. Pour elle, elle a gagné même première position face aux États-Unis. 30 points qualifiés, grand prix, on s'y attendait pas mal toutes. C'est pas mal une très belle performance pour elle. Et on va terminer donc prochaine compétition à Ross Telecom Cup en Russie, plus précisément à Sochi, la semaine de la semaine prochaine. Donc, ça va être la dernière étape qui va conclure donc pour toute la pré-saison avant les finales qui vont se dérouler la semaine d'après. Donc là, ça va être les 6 meilleurs et bien évidemment. S'il y a une personne qui se blesse ou s'il y a une personne qui ne pourra pas se représenter, bien, on va prendre le 7e, ainsi de suite.
J'imagine que c'est le genre de sujet dont vous allez traiter éventuellement à Twizzle Axel. Donc, si on veut entendre les développements du reste de cette saison-là, bien, on peut vous écouter, Daphné et toi, sur votre podcast. Puis, bien, j'imagine que ce n'est pas la dernière fois que tu viens nous jaser à Retour en Force non plus. Donc, on pourra te suivre pour avoir tous les détails là-dessus dans les prochains mois, prochaines semaines.
Effectivement, et surtout avec Daphné, moi, on essaie beaucoup plus de parler de sujets plus chauds. C'est sûr que les performances, on essaie de moins s'y attarder, mais c'est sûr que ça me fera un grand plaisir ici de parler plus de performances de certains Canadiens et du monde entier, des patineurs du monde entier. C'est impressionnant de voir cette année la compétition qu'il va avoir pour la médaille d'or olympique.
Right. On va surveiller ça de très près. On va conclure cet épisode-là. On va dépasser assurément le une heure là, de pas trop beaucoup. On va parler tennis. La saison, bon, là, il y en a certains puristes qui vont dire qu'elle n'est pas finie parce qu'il reste les finales de la Coupe Davis. Mais tant qu'à moi, je vais vous le dire, la saison de l'ATP comme telle est terminée. Même chose chez la WTA. On avait en fait aujourd'hui même
Tu te poses une question, ça veut t'interrompre. La Coupe Davis, ça compte tout dans les classements?
Dans les classements de
ben, mettons, est-ce que ça donne des points à ATP?
Non,
des...
non. Okay. Absolument.
Ça n'a aucun rapport. C'est comme la Coupe du Monde, essentiellement, sauf que ça revient tout le temps. Puis c'est assez spécial. Surtout les finales comme ça, c'est pas tout le monde qui joue. Honnêtement, là, je suis pas un grand fan de la Coupe Davis. Mais ça, ce sera un sujet pour une autre fois. Là, on va revenir sur les finales de l'ATP et de la WTA qui se sont terminées pour l'ATP. C'était aujourd'hui. J'ai presque eu mes prédictions au complet. J'avais prédit une victoire de Muguruza chez les femmes. C'est ce qui est arrivé. Par contre, j'ai été honnêtement surpris de voir Annette Kontaveit défaire Maria Sakkari en demi-finale. Kontaveit qui... Je m'attendais à ce qu'elle soit un petit peu plus fatiguée que ce qu'elle a été en fin de parcours, en fin de tournoi, avec la fin de saison incroyable qu'elle avait connue. Véritable saison d'éclosion pour elle. Et ça a réussi à se rendre jusqu'en finale du tournoi face à une Muguruza qui était toutefois en pleine possession de ses moyens. C'était vraiment son tournoi. Elle a été excellente là, tout au long de la semaine et a fini ça en beauté avec un titre en simple. Son premier pour elle, je crois, ou son deuxième en fait, revérifier ça, deux petites secondes. Non, son premier, c'est ça, son premier pour elle qui donc remporte ce titre-là. Et chez les femmes, là, c'est pas trop de surprise, c'est Sinakova-Krejcikova en double qui ont remporté le titre. C'est les meilleures joueuses de double au monde, ont dominé le circuit tout au long de la saison, ont défait Suwaishe et Elise Mertens en finale 6-3 et 6-4. Chez les hommes, j'avais prédit une victoire de Daniil Medvedev pour une deuxième saison de suite. Chose certaine, on allait avoir un champion donc, qui allait remporter son deuxième titre au moins pour la première fois depuis vraiment longtemps, comme je m'amuse à le répéter. Ça fait plusieurs années qu'on avait des champions différents. Djokovic l'avait gagné, Dimitrov l'avait gagné, Zverev l'avait gagné, Tsitsipas l'avait gagné, Medvedev l'avait gagné. Là, on tombait cette année avec un retour. Là, on avait des habitués en fait, là, qui se retrouvait dans les demi-finales à une exception près. Donc, on avait Daniil Medvedev, bien sûr, Alexander Zverev, Novak Djokovic sans surprise, et Casper Ruud, que j'avais dit dans mon dernier épisode du Point de presse, Casper Ruud ne va pas gagner un match lors de ce tournoi-là. Ben, il y a eu un petit cadeau parce que Stefanos Tsitsipas s'est retiré du tournoi et a été remplacé par Cameron Norrie, qui n'est pas supposé être là, tant qu'à moi. Cameron Norrie n'est pas un joueur extrêmement talentueux, mais a connu une bonne fin de saison. C'est donc ici là parmi les substituts et a donc permis à Casper Ruud de remporter un match. Sauf que Ruud a été surprendre Andrei Rublev ensuite là, lors de son dernier match des phases de groupe. Après avoir perdu quand même le premier set 6-2, a remporté les deux autres 7-5 et 7-6. Donc une moyenne surprise, je dois avouer, de mon côté. Mais il n'était pas au niveau de Daniil Medvedev en demi-finale, qui l'a remporté facilement. Par contre, on a eu un autre point dans la rivalité Djokovic-Zverev dans l'autre demi-finale. Zverev, qui l'a remporté face à Djokovic, lui refait le coup qu'il lui avait fait aux Olympiques pour rejoindre Medvedev en finale. C'est les deux joueurs, là, c'était leur année. Il y a deux joueurs, en fait, là, qui pouvaient battre Novak Djokovic cette saison. C'était Zverev et Medvedev. Ils ont été incroyables tout au long de l'année. Même si Djokovic aurait pu avoir le grand chelem, moi, c'est Zverev et Medvedev qui m'ont le plus impressionné cette année. C'est donc là, une finale bien méritée pour les deux joueurs. Et ça a été avantage Zverev, 6-4 et 6-4. Zverev qui a connu toute une rencontre, surtout au service. 8 as, 80% de réussite avec sa première balle. Medvedev qui a eu beaucoup de difficultés là, de son côté à passer son premier service. N'a pas connu un match nécessairement à la hauteur de ce dont il avait offert depuis, tout au long de la saison. Medvedev, là, je ne me gêne pas de dire que c'est son année d'éclosion. Même si ça fait 3 ans qu'il est incroyable cette année, remporter un grand chelem était de toutes les situations. À deux occasions, il aurait pu s'emparer du premier rang mondial et détrôner Novak Djokovic. Ça n'a pas été le cas. Donc, belle fin de saison pour ces deux-là. Et c'est Zverev qui est finalement couronné champion en simple. Et en double, bien, c'est le duo français de Pierre-Hugues Hébert et Nicolas Mahut qui a remporté le titre de champion de la saison de l'ATP. Je veux avant qu'on se laisse, là, qu'on parle d'un petit point de tennis, une situation qui me chicote particulièrement. Puis Olivier, je sais que tu as suivi ça de près également. Là, donc, si tu veux embarquer là-dessus, ne te gêne pas. C'est la situation qui entoure l'ancienne numéro 1 mondiale en double de la WTA, Peng Shuai. Peng Shuai qui... Plus tôt ce mois-ci, a publié un message sur les réseaux sociaux chinois accusant Zhang Gaoli, qui est un ancien haut placé du Conseil des ministres chinois. Elle l'a agressé de viol, rien de moins. Et depuis, elle avait complètement disparu de la sphère publique. Personne n'avait de nouvelles d'elle. Personne ne savait où elle était. On va pas partir là, sur de la propagande anti-gouvernement chinois, mais on sait ce que les pays communistes peuvent sortir comme moyen semi-légal pour faire taire l'opposition à leur gouvernement. Là, on n'a qu'à penser à ce qui est arrivé avec Artemy Panarin l'année dernière, qui a été forcé de retourner en Russie pour régler une fausse affaire d'agression sexuelle. On avait une situation assez inquiétante là, qui s'est déroulée, qui n'est toujours pas réglée, en fait, du côté de la Chine avec Peng Shuai, qui, bon, justement, a disparu. Et ça a pris là, quelques jours avant qu'on fasse des demandes officielles. La WTA, l'ATP ont été très vocaux à demander d'avoir des nouvelles. On voulait savoir ce qui était arrivé avec Peng Shuai. On s'inquiétait énormément de sa sécurité, de son bien-être. Et la Chine a répondu de façon assez exceptionnellement mauvaise. Il y a un courriel qui a été envoyé à l'exécutif en chef Steve Simon de la WTA, qui disait essentiellement « Ceci est Peng Shui, je vais bien, merci de vous inquiéter, mais tout est correct. » That's it. Ça venait genre de l'Office chinois des communications. C'était comme n'importe quoi, mais du gros n'importe quoi. Simon, qui a tout de suite pris les réseaux sociaux pour mentionner qu'il n'était pas du tout satisfait, que ça, en fait, ça faisait juste l'inquiéter encore plus, ce message-là qui était reçu, qui demandait à avoir vraiment des preuves vivantes que Peng Shuai était correct, était en santé. Il y a des photos ensuite qui ont circulé, des vidéos, mais bon, on sait à quel point c'est facile de truquer des photos, des vidéos, de prendre des vidéos d'archives, des images d'archives, puis de les faire circuler sur les réseaux sociaux. On n'était pas satisfait du tout. L'ATP a embarqué là-dedans, le CIO a embarqué également là-dedans et a finalement pu avoir une discussion avec Peng Shuai aujourd'hui. Donc dimanche, donc elle était apparue dans un événement public en Chine et a pu s'entretenir avec Thomas Bach, le président du Comité international olympique, pendant une trentaine de minutes. Par contre, ce qu'on déplace, c'est qu'il n'y a toujours pas de preuves concrètes comme telles, comme quoi elle n'est pas forcée à avoir une bonne image publique, à dire des choses qu'elle ne pense pas nécessairement. Donc, on s'inquiète encore beaucoup. Mais au moins, et ça c'est un peu plate à dire, mais au moins on sait qu'elle est en vie et qu'elle est somme toute en bonne santé physique, ce qui est quand même une nouvelle semi-rassurante, mais on n'a pas plus de détails que ça, donc beaucoup de gens s'inquiètent encore du bien-être et de la sécurité de Peng Shuai, qui a quand même là, sorti une moyenne bombe en accusant un ancien exécutif chinois de viol. On le rappelle, c'est pas rien, surtout pour ces gouvernements-là, pour qui l'image est ô combien importante. C'est une situation qu'il va falloir surveiller de très près, j'ai l'impression, qui pourrait se finir là, en conflit diplomatique bizarre, surtout à l'approche des Jeux olympiques de Beijing. On le rappelle, beaucoup se demandent si on ne devrait pas boycotter les Jeux olympiques de 2022. Le Canada, d'ailleurs, ça a été dévoilé aujourd'hui, qui est en discussion avec certains de ses partenaires à savoir si ce serait une possibilité à envisager que de boycotter les Jeux. Donc, c'est une situation qu'on va avoir de très, très, très près pour le CIO, pour plusieurs pays et surtout pour la WTA et l'ATP qui s'est également impliqué dans cette affaire.
Mais surtout que aussi la CNN internationale a annoncé vendredi que lorsqu'ils mettaient des nouvelles de Peng Shuai, en Chine, ça n'était pas diffusé. La diffusion était bloquée, j'imagine, par des publicités ou par une autre émission. Ils bloquaient tout ce qu'ils pouvaient, donc ils n'essayaient pas de divulguer des informations, que ce soit aux Chinois ou que ce soit pour toute l'international. Et moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est que la WTA ait autant réagi rapidement et avec une voix aussi forte. Mettons la NHL, ou que ce soit la NBA, ou que ce soit n'importe quelle autre association. Là, je trouve que j'ai jamais entendu une autre association avoir crié aussi fort pour la vie de quelqu'un ou pour la santé de quelqu'un.
Et c'est faut dire que ce sont des circuits plus locaux. La WTA, c'est assez international, mais effectivement, là, leur réponse a été assez exemplaire. On sait que la WTA, particulièrement là, au cours des dernières années, a vraiment fait un effort pour se rapprocher des joueurs, pour vraiment créer cet esprit de mini-famille dysfonctionnelle qu'est le circuit de la WTA. Et Peng Shuai, c'est pas rien. Là. C'est quand même une des étoiles du tennis féminin, particulièrement en Chine. On parle d'une ancienne numéro 1 mondiale. Oui, c'était en double. Il a quand même monté 14e en simple. C'est pas une nobody, Peng Shuai. Et la WTA a raison de s'inquiéter. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que l'ATP embarque, que Novak Djokovic fasse une déclaration... Ouais. Tout le monde s'est vraiment mis là-dedans. On a mis énormément de pression sur le gouvernement chinois et c'était la chose à faire. On ne va pas se mentir.
Non, c'est vraiment pas la chose. C'est vraiment la chose à faire. Puis même surtout la majorité des comptes Twitter des joueurs de tennis le jeudi étaient tous avec le hashtag Where is Peng Shuai. Mm-hmm. Et même, je pense, le journal L'Équipe, c'était la une de leur journal aussi. Puis je pense qu'un journal anglais aussi, c'était ça. Je pense qu'il y avait un autre journal sportif qui était la une.
Mm-hmm. Oui, on a envoyé un message, on s'est énormément inquiété sur cette situation-là et on va espérer avoir que des bonnes nouvelles dans les prochains jours là-dessus. Messieurs, dames, c'est ce qui va conclure cet épisode de Retour en force, épisode chargé, complet, très agréable également. Merci Étienne, merci Thomas, merci Vincent, merci beaucoup Olivier également. On va se retrouver la semaine prochaine pour d'autres sujets, d'autres sports. Ce sera le retour du curling parce qu'on est en plein milieu des essais olympiques canadiens. Très hâte de vous reparler à nouveau de curling. D'ici là, messieurs, dames, portez-vous bien. Au nom de toute l'équipe, je suis Juan Carrière et je vous souhaite une excellente semaine.